Chapitre 9. Une nuit avait encore passé, un douloureux tunnel dont Nicolas ne voyait pas le bout. Deux gars de l'IGPN s'étaient pointés la veille pour lui poser des questions sur leur intervention le soir où sa vie avait basculé. Une audition improvisée dans un coin de l'hôpital. Pour une fois, ils avaient été compréhensifs et avaient fait preuve de compassion. On était assez loin de l'image de charognard qu'on se faisait d'eux. Nicolas avait raconté la vérité, expliqué qu'Audra avait voulu planquer avec lui malgré ses réticences, qu'il l'avait ensuite emmené jusque chez Fermont. Que toute cette histoire n'était qu'un malheureux et terrible drame, que la seule personne à blâmer, c'était lui. Ses coéquipiers se relayaient autant que possible à ses côtés, et leur présence lui procurait un peu de réconfort. Il lui avait également apporté des affaires de rechange. Les infirmières et les aides-soignantes lui avaient, quant à elles, donné de quoi se laver dans la pièce où il tuait le temps. Depuis qu'il était là, il n'avait fermé les yeux que par intermittence, sans cesse réveillé par les couinements sur le linoléum ou les claquements de porte. Les derniers mots d'Audra tournaient en boucle dans sa tête. « T'as intérêt à revenir en un seul morceau, sinon je te botte les fesses. » C'était lui qui lui botterait les fesses, oui, et ils en riraient quand tout irait mieux. Nichés au creux de leur péniche, sur le port Van Gogh, ils finiraient enroulés dans les draps à discuter de l'avenir avec le bébé. Nicolas se surprit à parler au mur aveugle face à lui et, ce matin-là, prit soudain conscience de sa solitude, de la fragilité de la vie, de toutes les vies. Un jour, on pouvait tout avoir et le lendemain, se retrouver nu. La grande loterie de l'existence. L'horloge affichait 6 heures, mais il aurait pu être midi ou minuit que ça n'aurait rien changé. La lumière ici était partout artificielle et agressive. Le monde extérieur, l'actualité, la météo, plus rien n'existait. Les hôpitaux étaient des failles spatio-temporelles, des gouffres qui emportaient et recrachaient des corps au gré de la roue du destin. Après s'être fait violence pour se lever, Nicolas se rendit à la machine à café d'un pas traînant. Les parents d'Audra, venus de Nice, attendaient sur des chaises en plastique, eux aussi perdus entre deux mondes. Au-dessus de son masque, la mère lui lança un regard de pierre quand elle le vit. Tailleur strict, coupe courte, elle assumait ses cheveux argentés. Un petit côté Christine Lagarde, même froideur clinique, même allure. Le père, lui, ne broncha pas, mais, contrairement à elle, planta ses yeux de faucon sur celui qu'il n'avait jamais considéré comme son gendre. C'était un homme de forte stature, aux pommettes hautes, qui avait fait fortune dans l'immobilier. On parlait là d'un patrimoine d'une dizaine de millions d'euros. La rencontre s'était mal passée la veille, à leur arrivée à l'hôpital. Pas de serrage de main, pas de mots de soutien, mais des reproches à Nicolas, évidemment responsable de leur malheur. Oui, tout ça, c'était sa faute. Leur faute à tous, et ils ne s'en sortiraient pas comme ça. Personne n'avait pu leur raconter les circonstances exactes du drame ayant entraîné l'hospitalisation de leur fille. Un coup sur la tête, une chute après un face-à-face avec le criminel, ils n'auraient sans doute jamais leur réponse. En attendant, le policier se contenta de prendre sa boisson et retourna dans son espace. Il n'évoluait pas dans les mêmes sphères que ces gens-là, et cette tension palpable entre eux le blessait au plus profond de sa chair. Parfois, on sent les choses juste avant qu'elles ne se produisent, surtout lorsqu'il s'agit de choses qui vont changer de façon irrémédiable le cours de nos vies, lui avait un jour expliqué son père. Comme la brise, à peine perceptible, qui annonce l'arrivée de l'orage. Ce vent-là, Nicolas le perçut quelques secondes avant que le médecin réanimateur qui s'occupait d'Audra ne se manifeste enfin, après 3 nuits. Il sut immédiatement que c'était un vent glacial et mauvais. « Venez, s'il vous plaît. » L'homme, le docteur Martin Corneille, maintint la porte le temps que Nicolas enfile son masque et sorte. Ils rejoignirent ensuite Christian et José Spic, debout tous les deux. Le médecin était un quinquagénaire au teint de papier de riz sous les néons, sans doute lessivé comme tous les soignants par les vagues interminables de la pandémie qui sévissait. Je sais que l'attente a été longue, mais je voulais pouvoir revenir vers vous avec des réponses claires. Il inspira aussi profondément que s'il se préparait pour une apnée, et à la façon dont il recracha l'air, le cœur de Nicolas chavira définitivement. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas été en mesure de contenir l'œdème cérébral. Les nombreux examens que nous avons réalisés nous ont montré que l'ensemble du cerveau avait très tôt subi des dégâts irréversibles. Le gonflement a de surcroît comprimé une partie du tronc cérébral, le faisceau de tissu nerveux situé à la base de l'encéphale et qui gère les fonctions végétatives telles que la respiration, les battements cardiaques, les sécrétions glandulaires, la digestion. Compte tenu de tous ces éléments, notre pronostic concernant Madame Speke est très défavorable. José Speke, d'ordinaire très discrète et effacée, prit la parole, tandis que ses yeux s'emplissaient de larmes. « Qu'est-ce que ça veut dire, docteur, s'il vous plaît ?»« Madame, je suis désolé, son cerveau est inactif. Il n'y a plus de réponse verbale ni motrice. Les réactions aux stimuli extérieurs, y compris douloureux, sont inexistantes. Le réflexe photomoteur, normalement provoqué par le tronc cérébral, également. En d'autres termes, ses pupilles ne se rétractent plus sous l'effet d'une lumière intense. » L'examen par tomographie, qui nous permet en quelque sorte de lire dans le cerveau, démontre une absence totale de signaux dans les zones liées aux manifestations conscientes. Votre fille n'a plus aucune conscience du monde qui l'entoure. Vous avez, je pense, entendu parler de Vincent Lambert ? Elle acquiesça à peine. Le médecin poursuivit. Lui, il ouvrait les yeux, on observait des mouvements oculaires, il contractait les muscles de la face. Il était dans un état dit végétatif chronique. Dans le cas de votre fille, on est à un stade encore supérieur. À la vue de ces résultats, de nos connaissances, de notre expérience, il n'y a malheureusement aucune chance que votre fille retrouve ses facultés un jour. Ses fonctions vitales ne sont maintenues que par des machines. Alors que la mère attrapait la main de son mari et la serrait jusqu'à ce qu'elle blanchisse, un enfant éclata de rire en sortant de l'ascenseur, non loin. Des infirmières circulaient dans le couloir en discutant, étrangères à la tragédie qui était en train de se vivre. Nicolas percevait chaque vibration comme si les sons se décomposaient à l'infini. Il n'était plus là. Au fond de lui, un feu l'empêchait de sombrer, là, tout de suite. Un réflexe de survie. Mais il savait que ce n'était qu'une question de temps, qu'il tomberait, sous peu, sans plus pouvoir se relever. « Elle est morte, c'est ça ?» réussit-il à articuler. Je me rends compte que ce n'est pas facile à appréhender. Elle est, pour tout dire, aussi proche de la mort qu'on puisse l'être, au stade du coma le plus avancé, le plus profond sur l'échelle de Glasgow, sans rémission possible. J'en suis navré. Mais elle n'est donc pas tout à fait morte, n'est-ce pas? Même si vous dites que son cerveau l'est, elle est vivante. Là, maintenant, à l'heure où vous me parlez, elle est vivante. Son corps est vivant au sens biologique du terme, simplement parce que la technologie a pris le relais. Mais si nous la débranchons aujourd'hui, demain, dans une semaine, elle ne respirera plus, son cœur s'arrêtera dans les minutes qui suivront. José Speke poussa un gémissement d'animal blessé. Son mari lui passa un bras protecteur autour des épaules. Il se pinçait les lèvres pour ne pas pleurer. Nicolas n'arrivait pas à croire que tout cela puisse être vrai. Il était en plein cauchemar éveillé. Et le bébé ? Nicolas déployait ses dernières forces pour se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Le médecin acquiesça doucement. Il scruta les visages qui lui faisaient face, semblant prêt à peser chacun de ses mots. J'allais y venir. Nous sommes confrontés à une situation très compliquée. Et tout à l'heure, si vous le désirez, un psychologue de l'hôpital vous accordera du temps pour répondre à toutes vos interrogations. Interrogations qui sont bien normales à ce stade. En attendant, je vais essayer d'être le plus transparent possible. Il fixa plus particulièrement le père d'Audra. D'ordinaire, pour les patients cérébro-lésés dont l'état est analogue à celui de Madame Speke, nous aurions discuté avec vous, les parents, de la possibilité d'un don d'organes. Nous...
Hors de question ! Trancha Christian Speke. Vous n'avez pas honte de nous parler de la charcutée alors que qu'elle n'est même pas morte? Bon sang, peut-être que pour vous, elle n'est déjà plus rien, mais elle est...
Laissez-moi terminer. le coupa à son tour le médecin. « S'il vous plaît. » Il n'y avait rien d'agressif dans sa voix. Christian Speak finit par retrouver un semblant de calme et hocha la tête. « Aujourd'hui, on ne maintient plus en vie, coûte que coûte, quelqu'un dont le pronostic à long terme n'offre aucun espoir. Même dans le cas d'un refus de don, j'aurai, d'un commun accord avec un confrère, parce que la loi l'exige, déclenché ce que nous appelons une latte, une limitation ou arrêt des traitements. Pour être très clair, on débranche les machines. Mais il y a le fœtus qui pose problème. »
Pose problème?
L'obstétricien a établi que malgré le choc subi par la mère, il n'y a pas eu de rupture dans la circulation utérine. Le fœtus paraît parfaitement viable. Or, sur le plan physiologique, la mort du cerveau de la mère n'interfère pas avec l'évolution du fœtus. Nicolas était déboussolé. Il n'y comprenait plus rien. Quand il essuya ses yeux humides, le médecin lui demanda de s'asseoir tant ses doigts tremblaient. Les parents d'Audra l'imitèrent, eux aussi fébriles, laissant un siège vide entre eux et le policier. « Il est impossible d'extraire le fœtus tout de suite », poursuivit leur interlocuteur. « Il n'est pas viable. Un grand prématuré naît entre la 28e et la 32e semaine d'aménorrhée. Et même à ce stade, les risques de complications néonatales sont encore très élevés. Le fœtus dont nous parlons est, lui, à seulement 24 semaines. Si on veut lui donner toutes ses chances, il faudrait maintenir artificiellement sa mère en vie pendant près de 2 mois pour être au-delà de la grande prématurité. » Tout s'enchaînait trop vite pour Nicolas. On évoquait une naissance, une prématurité, alors qu'Audra était là, quelque part, reliée à des machines. Il existe chaque année de très rares cas à travers le monde où l'on procède de cette façon dans certaines conditions et selon les lois en vigueur dans les pays concernés. Mais c'est un processus très lourd qui demande beaucoup de moyens techniques et qui est très contraignant pour les équipes soignantes qui doivent être présentes H24. Sans compter que tenter de mener à son terme un bébé qui ne connaîtra pas sa mère est psychologiquement très dur. Il faut aussi avoir en tête que, à tout moment, l'état de Madame Speak peut se dégrader, que le cœur peut cesser de battre sans prévenir, que le fœtus peut en souffrir, que chaque jour est un nouveau combat. Nicolas n'arrivait pas à visualiser les choses. Un enfant sortant du ventre d'une mère médicalement considérée comme morte. Une scène qui défiait l'entendement, tout comme les lois de la nature. Une scène qui défiait la mort elle-même. Voilà pourquoi je vais réunir le comité d'éthique de l'hôpital. J'ai besoin de mettre en place une procédure collégiale pour faire face à cette situation atypique que nous n'avons jamais rencontrée ici. Je sais que c'est compliqué, très compliqué pour vous, les parents, pour vous, le compagnon et futur papa, mais je vais avoir une décision à prendre. Une décision qui s'appuiera sur l'avis du dit comité, qui prendra également en compte votre position là-dessus.
« De quelle décision parlez-vous ? » lâcha Christian Speak en se relevant.
« Il s'agira de trancher entre 2 options. Arrête-t-on les soins, comme nous y autorise la loi ? Ou tente-t-on, par tous les moyens, de mener la grossesse aussi loin que possible avec, je vous le répète, toutes les difficultés techniques et psychologiques que cela implique ? Nous allons devoir très précisément évaluer les bénéfices et les risques pour chaque cas de figure. » Un bénéfice, un risque. Voilà à quoi se résumait la vie d'Audra désormais. Les traits de son père exprimèrent une incommensurable angoisse. Il fit 3 pas, puis revint vers le médecin.
« Je veux voir ma fille.
Moi aussi je veux la voir », réclama Nicolas en se redressant à son tour.
Le docteur Corneille fit disparaître ses mains dans les poches de sa blouse.
« Très bien, mais s'il vous plaît, une personne à la fois. » Il est indispensable de respecter les restrictions sanitaires.
On est ses parents, merde!
Je sais, et j'en suis désolé. Mais ce n'est certainement pas dans un service de réanimation où on s'occupe de patients entre la vie et la mort que je vais déroger à la règle.
Toutes ces procédures manquaient cruellement d'humanité. Ce fichu Covid créait des situations où des malades mouraient seuls, où des gens ne pouvaient même plus enterrer leurs proches dans des conditions convenables. Et Audra maintenant. Christian Speak fit signe à sa femme qu'il y allait d'abord. Nicolas ne chercha pas à s'interposer. Il n'en avait pas la force.
mais il interpella le médecin avant qu'il ne s'éloigne.
« Docteur,
le bébé, vous savez si c'est une fille ou un garçon ?»«
Oui, c'est un garçon. »
Quand les deux hommes disparurent derrière la porte battante, Nicolas s'isola dans un renfoncement près de l'ascenseur. Un garçon, c'était un garçon. Ça aurait dû être le plus beau jour de sa vie. Il explosa en sanglots.